Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Salut les curieux du week-end, bienvenue dans votre cabinet de curiosité, ça va Thomas ?
Il est en pleine forme le Thomas Hugues, comment ça va Sidonie ?
C'est pas très bon signe si vous parlez de vous à la troisième personne du singulier,
non,
mais enfin
non,
bon, on va faire cette émission quand même.
Mais oui, allez, tout à l'heure on parlera de certaines des plus grandes affaires criminelles, par exemple l'affaire Violette Nozière avec le grand spécialiste Jacques Pradel.
Mais avant, comme c'est la journée internationale des personnes handicapées, nous avons eu envie, à la curiosité, de vous faire réécouter notre rencontre avec l'aventurier Philippe Croizon, c'était le 26 janvier 2015.
Alors vous connaissez son histoire, à la suite d'une électrocution, Philippe Croizon a été amputé des 4 membres malgré son handicap. Il a retrouvé l'envie de vivre et de se dépasser grâce au sport.
D'ailleurs, il a relié 5 continents à la nage. Imaginez, Philippe Croizon, une leçon de vie, c'est maintenant sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Les gens qui croient que la vie n'est que souffrance, alors c'est pas vrai. On a le droit de souffrir, on a le droit d'avoir mal. Mais à un moment donné, il faut relever la tête et se dire attends.
RTL.
J'ai pas de plan de carrière, j'ai qu'un objectif, vivre et faire vivre les proches, les miens, du mieux que je peux. Quoi.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il se surnomme l'homme en kit et a trouvé amusant de demander à EDF de sponsoriser ses défis alors qu'il s'est électrocuté et a été amputé de ses 4 membres. Notre invité a de l'humour, ça c'est sûr, et c'est aussi un très grand athlète. Bonsoir Philippe Croizon.
Bonsoir.
Vous avez 47 ans, vous êtes le premier amputé des 4 membres à avoir traversé la Manche à la nage. Ça, c'est comme ça qu'on vous présente aujourd'hui, mais vous n'avez pas toujours été cet homme-là. Qui étiez-vous avant le 5 mars 1994? Qui étiez-vous?
J'étais ouvrier métallo, ouvrier métallurgiste. Je travaillais en fonderie du Poitou à Ingrande, près de Châtellerault. J'avais un petit plan de carrière normal, quoi. Enfin, une petite maison qui allait se construire. J'avais un enfant âgé de 7 ans, Jérémy, et j'ai un bébé qui allait arriver. Donc il fallait déménager, ma maison était un peu trop petite. Et voilà, j'ai voulu démonter cette antenne de télévision, j'ai voulu la récupérer. Parce que ça coûtait quand même 500 francs à l'époque, j'ai quand même pas laissé 500 francs sur le toit. Et donc j'ai pris une échelle en aluminium, je suis monté, j'ai démonté l'antenne et derrière moi une ligne électrique de 20 000 volts. Et dès que j'ai posé mes 2 tibias sur le barreau de l'échelle en aluminium, ça a fait contact avec la terre et ça m'a collé sur la ligne.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Vous avez été hospitalisé, Philippe Croizon? Vous êtes resté combien de temps à l'hôpital? Combien d'opérations?
À peu près 100 heures de bloc opératoire et à peu près 2 ans d'hospitalisation, en comptant le centre de rééducation. Mais au bout de 2 ans, quand je suis sorti, j'avais mon permis de conduire, j'étais prêt à reconduire un véhicule. Enfin voilà, toujours des objectifs à atteindre. Mon premier objectif, c'était de faire mes premiers pas avant mon petit bébé. Voilà, mon petit bébé est né 2 mois après l'accident et les médecins m'ont dit ça va être un peu dur quand même, je pense que ton petit marchera avant toi. Voilà, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas me dire.
Donc vous êtes lancé des défis en permanence?
En permanence.
Mais tout de suite, vous avez repris comme ça le contrôle, parce que c'est...
Je pense qu'on fonctionne tous un peu pareil. Hein. Quand on a eu un gros coup comme ça, quand on est dans un centre de réduc, on fonctionne par but à atteindre. Alors, quoi, et le but le plus loin possible. Ça veut dire qu'on va avancer assez longtemps pour arriver à l'atteindre.
Ces 2 ans de centre de rééducation, ça se passe comment au quotidien? Qu'est-ce que vous apprenez concrètement?
C'est la fête. Mais vraiment, quand je dis c'est la fête, je l'explique dans mon premier livre, hein, J'ai décidé de vivre, il y a des passages durs, c'est très difficile, un centre de rééducation, mais en même temps c'est un retour à la vie. C'est un retour à la vie, c'est-à-dire que tout est permis, tout.
Mais vous devez tout réapprendre, Philippe Croizon?
Ah oui, tout, apprendre à marcher, à manger, à utiliser des bras myoélectriques, qui sont on se concentre et la main s'ouvre et se ferme, rotation du poignet.
C'est quoi ça, un bras myoélectrique?
Myoélectrique.
Racontez-nous.
Ben, c'est-à-dire qu'avec les contractions musculaires, on a une main qui s'ouvre et qui se ferme. Et on a une rotation du poignet aussi. Donc, et la main peut tourner, par exemple, dans un sens en permanence, dans le même sens. C'est pour ça, très souvent, quand je fais des conférences dans les entreprises ou dans les écoles, je me posais la question, quelle est ma place au sein de ma famille? Et je dis, ma famille a trouvé ma place pour moi grâce à ma prothèse myoélectrique. C'est moi qui m'occupe de la cuisson du poulet au barbecue l'été. Et je fais tourner la main en permanence. Et voilà, et éclat de rire comme ça, comme on est en train de le faire maintenant. Et ça veut dire que ça y est, là, on vient de briser la glace. Il n'y a plus de handicap, on rencontre la personne.
Avant ça, c'est votre nature, ça.
Philippe. Oui,
vous
c'est ma nature.
Vous êtes quelqu'un qui aime bien vanner.
J'adore.
Et vous l'avez gardé, ça?
Ah oui, complètement. Et je pense que je l'ai un peu plus développé. Oui.
Alors, ces bras bioélectriques, vous ne les portez pas ce soir, par exemple?
Non,
pourquoi? Parce que c'est comme un outil?
Oui, c'est un outil. Je ne sais pas quoi en faire, sinon là, ils m'encombreraient. Donc, je les laisse au placard. Enfin, là, en l'occurrence, ils sont dans la voiture, dans la gare à Poitiers. Et donc, quand je reviens, je remets mes bras et je reconduis ma voiture.
En revanche, vous êtes arrivé en marchant, vous avez des prothèses.
Oui.
Et ça, vous les gardez tout le temps?
Parce que je suis venu vous voir, mais sinon ouais, je suis un vrai feignant moi, dès que je peux enlever les prothèses et je me mets dans mon fauteuil électrique, je suis bien quoi.
Non, franchement, on est tous pareils.
Au début j'avais vraiment honte de mon handicap, je savais pas quoi faire quoi, je dis faut que je mette absolument les 4, j'avais peur du regard des autres. Mmh. Et au fur et à mesure j'ai commencé à enlever les bras et puis maintenant j'enlève les jambes et quand je vais à la plage alors, je saute et je marche sur le sable et sur mes jambes. Quoi.
Et justement il est comment le regard des autres?
Au début il est un peu difficile.
Sans vos prothèses?
Au début, il est un peu difficile et on comprend que c'est humain, tout simplement humain. Quand il y a une différence, quand il y a un accident sur l'autoroute, vous avez un bouchon, là il y a l'accident, et vous avez un bouchon de l'autre côté. Parce que tout le monde freine, tout le monde veut voir. Mmh. Vous savez...
C'est-à-dire que les gens vous regardent beaucoup, Philippe Croizon, ou évitent de vous regarder?
Non, au début, oui, il y en a qui évitent. Enfin, vous avez tous les types de regards, vous avez les regards compatissants. Oh le pauvre, qu'est-ce que c'est triste. Vous avez le regard curieux. Oh là, il n'a pas de jambe. Il lève la tête. Oh, mais il n'a pas de bras non plus. Oh là là, quelle horreur. Vous voyez, vous avez tous les types. Il y a même des gens qui vous arrêtent pour vous demander ce que vous avez eu, quoi. Donc moi, au début, avant que je sois connu par rapport aux événements que j'ai faits, je disais que c'était une naissance, ça allait plus vite. Une anecdote, mais juste une petite anecdote vite fait. L'autre jour, j'étais dans un parc d'attractions, et il y avait un petit garçon de 10 ans avec son petit frère de 7 ans. Et le petit de 10 ans regarde, dit, oh, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambe. Il tire le bras de son petit frère et dit, regarde le monsieur, il n'a pas de bras, il n'a pas de jambe. Et le petit, il a levé la tête tellement vite, il fait, pff, n'importe quoi, il n'a pas de cheveux.
C'est génial.
C'est très bon. Mais Philippe Croizon, ça vous est arrivé en 94. Est-ce que ce regard des autres sur le handicap dont on parle, vous l'avez vu évoluer?
Oui, mais vraiment, vraiment. Autant je suis quelqu'un de revendicatif, quand il faut le dire, quand il y a des choses à améliorer, il faut le dire. Mais par contre, il y a des choses qui ont été faites qui sont formidables. La loi de février 2005 est formidable. Malheureusement, elle n'a pas été respectée comme on l'aurait voulu.
Qu'est-ce que ça devait changer? Ouais.
Ben là, ça devait changer. Mais il faut regarder aussi ceux qui ont travaillé. Il y a des élus. Il y a des élus qui ont bossé, qui ont fait le job. Il y en a plein qui n'ont pas fait le job.
On parle de quoi concrètement dans la vie au quotidien? Qu'est-ce que ça a changé, cette loi de 2005?
Je pense que ça a changé sur l'accessibilité. Il y a encore beaucoup, beaucoup de travail. Il y a des villes qui ont fait le travail. Nantes, Grenoble, des villes ont réussi le boulot. D'autres n'ont pas réussi. Pourquoi? Donc,
pour les transports en commun, pour aller à
exactement.
La piscine.
Pourquoi on vient de repousser l'accès sur les transports en commun, justement, de 9 ans, encore une fois? Parce que la loi n'a pas été respectée. On a trop traîné, on a laissé faire. Et là, on se dit, vous, citoyen en situation de handicap, il faudra attendre encore 9 ans pour que vous puissiez vous balader partout, encore une fois.
La curiosité week-end, c'est jusqu'à 15h sur RTL. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Philippe Croizon, vous avez été amputé des 4 membres à la suite d'un accident en 94. Ce drame a changé votre vie, ou plutôt, c'est vous qui avez décidé de changer de vie. C'est une nuance importante, vous étiez un ouvrier valide, vous êtes devenu un athlète handicapé, premier amputé des 4 membres à avoir traversé la Manche à la nage. Ça veut dire que vous étiez un grand sportif avant l'accident?
Oui, bien sûr, un vrai, le véritable sportif canapé, vous savez, avec la boisson gazeuse, le paquet de chips, et on engueule les joueurs de foot à la télé, quoi. Le vrai, le pur et dur, quoi.
Mais alors, comment vous avez cette idée, alors, d'aller traverser la
Cette idée, elle est sur mon lit d'hôpital. Quand je suis amputé des 4 membres, je me réveille, je décide de vivre pour mes deux garçons, d'où le titre de mon premier livre, et après, je zappe à la télé, et je vois une jeune fille qui traverse la Manche à la nage, la deuxième française à réussir, Marion Hans, et elle a 17 ans. Et je connais pas encore le phénomène du dépassement de soi. Je viens juste de me réveiller, quoi. J'ai plus de bras et plus de jambes. Et je regarde ces images sur Thalassa. Je regarde ces images et je suis capté par cette fille qui se bat contre les éléments, son équipe qui l'encourage. Elle avait échoué à l'âge de 16 ans. Elle était revenue un an après pour traverser la Manche. Et là, dans ma petite tête, il y a un truc qui se dit, mais pourquoi pas moi un jour? Pourquoi moi je ne traverserais pas la Manche à la nage? C'est tout. Et ça ne me harcèle pas. Hein.
Philippe Croizon, est-ce que vous étiez avant un homme de défi déjà? Parce qu'on a dit que vous étiez un sportif en canapé comme nous tous d'une certaine façon, est-ce que vous aimiez vous lancer des défis, avancer comme ça?
Non, pas du tout. Non. Mais pour moi, c'était même pas un défi, j'avais juste envie de le faire. Juste comme le gars qui va grimper l'Himalaya ou qui juste envie de le faire. Même pas pour me prouver quelque chose. Hein.
Et quand
juste
vous dites ça à vos proches, Philippe Croizon, je veux traverser la Manche à la nage,
oui.
Qu'est-ce qu'ils vous disent?
Écoutez, pour être honnête, j'ai un souvenir, j'étais à Noirmoutier avec mon père en vacances, avec mes parents. Et je vais voir mon père, on était au bord de la mer, et je lui dis, papa, un jour je crois que je traverserai la Manche à la nage. Et j'ai vu dans son silence, mais surtout dans ses yeux, il s'est dit, merde, il a pas que les bras et les jambes qui ont cramé. Le cerveau avec. Et je vous jure, ça s'est vraiment passé comme ça, il m'a regardé mais avec un silence mais incroyable, en me disant, mais qu'est-ce que tu me racontes, mais tu vas pas bien. Et voilà, personne peut croire une histoire pareille.
Donc il fallait convaincre les proches déjà.
Ah oui, il a fallu les convaincre, les rassurer. Démarche.
Convaincre aussi peut-être des sponsors, parce que
c'est plus dur encore, parce que quand vous n'êtes pas connu, vous n'êtes pas sportif, vous n'êtes rien. Vous sortez de votre canapé, enfin ce qui m'a sorti de mon canapé, c'est une histoire d'amour. C'est une rencontre avec Susanna sur un site de rencontre. J'étais seul avec mes deux garçons et j'ai dit, allez, je vais tenter ma chance sur Internet. Mm-hmm. Bon, je suis pas con, j'avais mis ma tête sur la photo. Hein. C'était dans la pochette surprise.
Comment elle a réagi?
Au début, pas très bien. Enfin, si, je lui ai dit au deuxième mail.
Elle était déçue que vous n'ayez pas de cheveux.
Voilà, c'est ça, exactement. Parce que je lui avais dit, mes cheveux sont dans le vent, mais le vent était trop fort et je ne les ai pas retrouvés. Et puis elle m'a répondu, si je les retrouve, si le vent est vers moi. Voilà, des trucs complètement nazes. Et après, on a discuté pendant des semaines. Et après, on s'est appelé pendant quelques temps. Et un jour, elle est venue à la maison. Et quelques temps plus tard, elle est venue avec un énorme bouquet de fleurs. Et elle m'a dit, je crois bien que je t'aime. Et je lui ai dit, je crois bien que moi aussi. Et on a 5 enfants. Elle a 3 filles.
C'est
moi, j'ai 2 garçons. On a aussi un chien bang, 3 chats et un cochon d'Inde.
Et c'est Susanna qui vous aide à organiser cette expédition incroyable, cet exploit de traverser la Manche. Mais comment...
Sans histoire d'amour, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait.
Alors après, il y a la partie technique, évidemment. Comment vous projetez de la traverser, cette Manche, concrètement?
Le coup de pied au cul vient avec un saut en parachute. Je saute en parachute à 4600 mètres d'altitude. En bas, il y a une journaliste de France 3, ce que je fais pour un petit garçon que j'adore, qui s'appelle Théo Curin, qui est devenu champion de France 4 fois, qui vient de battre le record de France de natation, qui a amputé les 4 membres. Et donc, c'est mon petit protégé, c'est mon petit pote. Et je fais ce saut en parachute et je parle de Théo. Et il y a une journaliste en bas qui me dit, mais c'est quoi ton prochain objectif? T'as un nouveau rêve? Oh, je dis non, c'est un vieux truc, j'ai envie de traverser la Manche à nage, mais je sais pas si je le ferai. Et elle m'invite quelques mois plus tard sur le plateau de France 3, en direct, à réagir au discours du président de la République, Nicolas Sarkozy. Elle passe l'information à sa collègue sur le plateau télé. Et sa collègue, en plein direct, elle me dit « Alors comme ça, Philippe Croizon, vous allez traverser la Manche à la nage ?» 14 ans plus tard, après l'avoir vu à la télé, j'ai un vieux tiroir qui s'ouvre, plein de toiles d'araignées, plein de poussière. Ouais. Il y a un mot qui sort de là-dedans, qui arrive à ma bouche, qui fait « Oui ».
Là, vous faites « Je suis dans la mouise ».
Et là, je suis dans la mouise.
Plus,
et là,
vous pouvez plus faire marche arrière.
C'est fini, c'est trop tard. Et surtout, Susanna, je sors du plateau.
Il y a quelques millions de personnes qui étaient là, qui vous avaient entendu.
Et Susanna, quand je sors du plateau télé, Susanna, mais ça faisait 2 ans qu'on était ensemble avec Susanna. Et elle me dit « Mais c'est quoi la traversée de la Manche ?» Je lui dis « Je sais pas. J'ai vu ça il y a 14 ans à la télé. »
Et là, il faut s'entraîner. Ça représente quoi comme entraînement?
Déjà, il faut trouver un coach, il faut trouver la ville de Châtellerault qui m'a vraiment aidé, qui m'a dit « Écoute, t'as besoin de quoi ?» Un élu, incroyable, je rentre dans son bureau, tout de suite le gars il me dit « Ok, t'as besoin de quoi ?» Mais je dis « Mais quoi, j'ai besoin de moi, j'ai la piscine ?» Il dit « Ok, la piscine est limitée, il dit « T'as besoin d'un entraîneur ?» Ben il m'a filé un entraîneur. Vous connaissez Philippe Lucas ?
Non.
Ah oui.
Ben j'avais le même, mais en fille.
Ah mieux.
Donc c'était une grande
fille. Quelqu'un de fort. Un coach, c'est quelqu'un qui a un caractère très fort et qui est capable de vous emmener au-delà de ce que vous croyez être capable de faire. Vraiment.
Et là, ça a été dur. Vous est arrivé de vous dire, j'y arriverai pas, il faut que j'arrête, c'est trop. C'est trop fou.
Jamais. Le doute tout le temps, le renoncement, jamais. Mmh. Je craquais, souvent, j'ai pleuré, j'ai hurlé. Des fois, j'arrivais dans le vestiaire, je vais craquer, ou alors je prenais mon fauteuil électrique, je vais dans les bois. Je pars une demi-journée, je hurle, le premier lapin qui passe, il s'en prend plein la tête, il comprend rien, il dit, mais j'ai rien fait, moi. Je me vide et je retourne à l'entraînement.
La Manche, Philippe Croizon, vous l'avez traversée. Vous avez nagé avec 4 prothèses, 2 pour les jambes, 2 pour les bras.
2 prothèses, seulement juste pour les jambes.
Pour les jambes. Et vous avez nagé seul?
Seul, oui, avec un bateau qui m'accompagnait. À bord de ce bateau, il y avait bien sûr mon entraîneur, Valérie Carbonel, Susanna. Les 2 nageurs longue distance, Arnaud Chassery et Jacques Tussé, qui ont réussi la traversée, des Français. Donc je les ai appelés, je dis, aidez-moi. Enfin, j'ai formé une équipe. Voilà, j'avais les 2 nageurs longue distance, mon entraîneur, Susanna, un kiné, l'ancien kiné de l'équipe de France de football, Bruno Klein. Il y avait un préparateur physique, un cardiologue, parce que j'avais fait 2 infarctus. Et je suis arrivé dans cette équipe et je dis voilà, transformez-moi. Et en 2 ans de temps, ils m'ont transformé.
Et vous avez traversé la Manche en combien d'heures?
13h26 minutes.
D'un seul coup?
D'un seul coup, ouais.
Quel exploit. Chapeau, on est bluffé. Hein, et on va continuer de partager ce destin extraordinaire et ses exploits avec vous. Restez avec nous.
Même le week-end, la curiosité est un vilain défaut.
À un moment donné, je me suis dit, mon handicap, il est là. Je dis, il est là, autant qu'il me soit utile.
La curiosité est un vilain défaut.
Il m'embête dans ma vie au quotidien, ce handicap. Je ne peux pas serrer mes enfants, je ne peux pas courir. Donc, j'ai fait en sorte qu'il me soit utile.
Merci, la roi du monde.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
La voix que vous entendez, évidemment, c'est celle de Philippe Croizon. Et la scène, on l'imagine, je suis le roi du monde. Bah oui.
La dernière traversée, le détroit de Bering, dans une eau à 2 degrés. Et on fonce sur la petite Diomède avec des petits bateaux, des petites embarcations avec les Inuits. Et là, je crie en disant « je suis le roi du monde » parce que c'est de la folie. Quoi.
Alors c'est quoi cette histoire? Parce que vous avez traversé quoi, les mers qui séparent
les 5 continents. Exactement.
C'était quand ça?
En 2012. Mmh. 2 nageurs, un nageur valide, un nageur handicapé. On fait ça pour effacer les différences, dire « regardez ». Malgré le handicap, enfin, on est tous capables de faire la même chose. Et comme je le dis très souvent sur le ton de l'humour, je dis, vous rendez compte, il y a un nageur valide qui a fait la même chose qu'un nageur handicapé. C'est fort quand même.
C'est 5 pays, c'est ça? 5 mers?
5 continents et 4 traversées. On a commencé par l'hémisphère sud, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. On a relié la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'Indonésie. Ensuite, on a fait la mer Rouge, Égypte-Jordanie. Ensuite, le détroit de Gibraltar, Espagne-Maroc pour l'Europe-Afrique. Et le dernier, le détroit de Bering, entre la petite Diomède qui est américaine et la grande Diomède qui est russe, donc entre la Sibérie et l'Alaska.
Le plus dur, c'était où, dans les mers froides?
Le plus dur, c'est la Manche.
Ah oui, c'est ce que vous aviez
dur,
fait
c'est
avant,
la Manche. Il n'y a rien de plus difficile. Et après, ce qui a été très dur dans le détroit de Bering, bien sûr, c'est l'eau à 2 degrés. Là, on fait pipi qu'une fois et après, c'est terminé.
C'est
et là, là, l'hypothermie a été vraiment très, très sévère. On a eu une petite frayeur parce que ma combinaison avait foiré, ce qu'on ne sait pas dans le film. Parce qu'il y a un DVD qui s'appelle « Nager au-delà des frontières ». La combinaison à la foirée, on m'a mis deux combinaisons de triathlon de 3 mm qu'on a découpées avec des ciseaux et on m'a balancé dans le détroit de Bering comme ça. Et l'eau, elle est rentrée partout. Et donc là, c'était très très dur.
Parce que ça a duré combien de temps cette traversée?
On a mis 1h20 quelque chose.
Donc dans une eau à 2 degrés.
Dans une eau, juste après une tempête, dans plein brouillard, on ne voyait plus la Grande Diomède. Et à un moment donné, au bout de, je crois que c'était 10 minutes, on entend les Inuits qui nous hurlent dessus. Et on voit la roche, on se dit, waouh, déjà, 10 minutes pour traverser, trop fort. Sauf qu'on avait fait demi-tour dans le brouillard, on était revenu sur la petite Diomède. Il fallait repartir dans l'autre sens encore.
Tiens, j'ai une curiosité, ça tombe bien, c'est le titre de l'émission. On parle souvent du fait de comment ça s'appelle, les membres fantômes.
La douleur des membres fantômes.
Ouais, voilà. Est-ce que vous les ressentez encore aussi longtemps après?
Toujours, toujours. Là, j'ai toujours mes mains, je joue avec. Là, je bouge mon doigt, mon petit pouce. Bon, après, la douleur est là et ça me fait toujours un petit peu plus mal quand on m'en parle, quand on me le rappelle.
Pardon.
Donc, mais c'est pas grave, je vous remercie.
Non, j'aurais pas posé la question sinon.
C'était
évidemment
une boutade, mais.
J'ai eu peur, je me suis dit ça.
C'est-à-dire que là, je vis avec des fourmis en permanence dans les mains, tout le temps. Et des fois, j'ai des crises de coups de jus. C'est-à-dire que le cerveau envoie une impulsion électrique parce que lui, il comprend pas pourquoi l'information revient si vite. Donc, au début, les amputations, il le fait tous les jours. Après, il va le faire 2-3 fois par semaine, après 2-3 fois par mois. Et là, j'ai des crises environ 5-6 fois dans l'année. C'est-à-dire que ça va être violent. C'est-à-dire pendant peut-être toute une nuit ou deux jours, je vais avoir les 4 membres qui vont voler dans tous les sens. Parce que le cerveau envoie des impulsions électriques, parce qu'il ne comprend pas pourquoi l'information revient. Pour lui, les mains et les pieds sont toujours là. Ils ne sont pas partis.
En 2014, vous continuez de participer. Alors, mais c'est incroyable, votre CV. Là, alors, on va en choisir un au hasard, parce qu'on n'aura pas le temps de tous les faire. Vous participez au grand raid des Joëlettes. C'est
oui.
Quoi?
Avec l'association Run Andy Move à l'île de la Réunion. Alors ça consiste
à
faire
la diagonale des fous.
La diagonale des fous, le grand raid des Joëlettes.
C'est un
et
truc
en même
pour
temps que la diagonale des fous, c'est 170 km.
Ouais.
Et nous, le grand raid des Joëlettes, on a fait 95 km, 5000 mètres de dénivelé positif en 65 heures. Donc 54 porteurs, dont 4 filles, pour porter un gros gaillard comme moi dans une Joëlette.
54 porteurs pour vous?
En tout, avec
en
les
tout.
Enfants. Parce qu'on avait 3 Joëlettes et on avait une vingtaine d'enfants qu'on a pris en relais.
Ah bah, c'est quoi une Joëlette, excusez-moi?
Alors une Joëlette, c'est un siège avec une roue au milieu, un amortisseur juste en dessous et un brancard devant et à l'arrière. Sauf qu'en général, la Joëlette, on la fait rouler. Là, à l'île de la Réunion, c'est tellement escarpé qu'ils font tout au porté. Donc un porteur tient à peu près entre 3 et 5 minutes, pas plus. Et après, ils se font un relais toutes les 5 minutes et toutes les 3 minutes. Mais ça a été une aventure vraiment magnifique à vivre. Pour moi, ça n'a pas été trop dur. Hein. J'étais assis, juste mal aux fesses, moi. Donc,
Vous faisiez des encouragements, c'est
ouais,
ça?
Ouais, je les encourageais, je les motivais. Et ce qui était beau, c'est d'arriver à Saint-Denis, au stade de la Redoute. Et vous avez ces 51 porteurs qui vont jusqu'au bout et qui arrivent au bout et qui s'effondrent. Parce que les gamins sont là, ils ont un sourire jusqu'aux oreilles. On avait des enfants, mais des enfants infirmes moteurs cérébrales. Et très souvent, on dit, mais ils ne comprennent pas ces enfants, mais si, ils ont toute leur intelligence, sauf qu'ils ne peuvent pas communiquer, sauf avec leurs yeux et leur sourire. Et ça, franchement, quand vous avez un enfant comme ça qui arrive au bout, et que les porteurs regardent ce sourire de l'enfant, mais tout le monde pleure, quoi. Tout le monde s'écroule, et c'est beau. C'est juste du partage, c'est de l'aventure humaine.
Une vie d'émotion, Philippe.
Ouais, mais il n'y a que ça de vrai, je crois.
Lorsque vous êtes en mer, d'abord, est-ce que vous avez des palmes sur les prothèses?
Alors, sur les jambes, oui. C'est des prothèses en carbone et en titane. Les ingénieurs ont travaillé pendant à peu près plus d'un an et demi pour arriver à fabriquer ces prothèses. Eric Breyer, le fabricant de palmes, lui, il a mis un an et demi pour trouver la bonne dureté pour chaque jambe. Donc, et après, au bras, on n'a rien mis parce que le bras gauche est un peu trop faible. Mais je fais quand même un mouvement de crawl pour avoir une synchronisation avec les jambes pour ne pas trop fatiguer.
Vous nagez en surface, mais vous aimez bien aller aussi au fond de l'eau, c'est ça? Vous avez battu un record de plongée?
Oui, avec Paul Sobol, un monsieur que j'ai rencontré pendant l'expédition. Je l'ai rencontré en Égypte. Ce monsieur a 87 ans maintenant. Il est rescapé des trois camps. Il a fait 3 camps de concentration. Il a fait la marche de la mort. Et on est devenus super potes. Et un jour, il m'a dit, tiens, je vais faire la plus vieille plongée du monde avec tous mes copains plongeurs. Il y avait 1000 ans de vie, 700 ans de plongée avec tous ces anciens plongeurs. Et ils m'ont dit, ça serait bien que tu plonges avec nous. Donc j'étais le premier amputé des 4 membres à plonger à 33 mètres de profondeur avec tous ces papis. Et pour l'anecdote, il y en a un qui est venu, je ne sais pas quel âge il avait. Je crois qu'il était le plus ancien, il avait 90 ans. Et il vient avec son premier détendeur, le truc était tout pourri. Il dit, ouais, je vais plonger avec mon premier truc. Donc il dit, non, c'est pas possible.
Non, tu ne le fais pas ce coup-là. Ouais.
Prochain record à battre, vous avez une idée, Philippe Croison? Vous avez déjà un projet, je suis sûr.
Il ne faut pas le titiller, il va nous inventer un nouveau défi.
Non, mais là, je crois que je suis bien fatigué, surtout ma famille, surtout Susanna, donc je crois que je vais devenir testeur de matelas, je vais bien dormir. Là.
Testeur de matelas?
Ouais,
testeur de vacances?
Ça suffit, ouais, testeur de vacances et tout.
Transat, c'est pas mal aussi.
Je ne peux pas demander plus à ma famille, voilà, parce qu'ils ont tellement donné que si je demanderais plus, je crois que ça serait tirer un petit peu trop sur la corde.
Eh ben, bravo, ça aussi, c'est un joli message.
Merci infiniment.
Et on conseille évidemment de lire Plus fort la vie. En collaboration avec Emmanuel Dalseco, préface de Boris Cyrulnik, je le rappelle, c'est publié aux éditions Artaud. C'était un grand moment, merci beaucoup
merci
d'être
à vous.
Venu merci. Dans La Curiosité est un vilain défaut sur RTL.
Et dans un instant, dans La Curiosité, enquête criminelle avec le commissaire Jacques Pradel.